La science divine. Jésus, pardonne-moi, je t'en prie, donne-moi ta leçon habituelle pour le bien de mon âme et pour celui de la communauté. Jésus me répond, ne doute jamais de moi, ni de ma parole. Ce n'est pas une vaine science que je te donne, mais la science divine, celle qui a fait le saint, cette science qui, approfondissant les mystères de Dieu, en goûte toute la beauté, en aime la grandeur, en ressent la bonté et en retire des fruits de sainteté et de perfection chrétienne. Que les hommes de ce monde cherchent donc à connaître tous les mystères de la création. Quant à toi, c'est moi qui serai ta science et t'instruirai avec patience, comme fait la maman avec son petit enfant. Je t'apprendrai comment pratiquer les vertus dont je te parle, comment vivre la vie intérieure, comment monter vers les hauts sommets de l'ascèse et communier avec moi, avec ton Dieu. C'est pourquoi mets ton esprit à ma disposition, afin que je puisse rendre ton intelligence plus ouverte et plus claire. Oublie pour un moment toutes les préoccupations matérielles qui te harcèlent quotidiennement. Ta vie vaut bien plus que ces préoccupations, comme ton corps vaut plus que les aliments dont il se nourrit. Écoute mon invitation à te vaincre toi-même sans cesse, en ne cherchant en rien ta volonté, mais uniquement mon bon plaisir, ma gloire et celle de mon Père. Place-toi devant les tabernacles, où jour et nuit je réside en attendant ceux qui ont faim et soif de moi, non seulement pour leur donner la nourriture de l'âme qui est mon corps, mais encore cet aliment spirituel qui est ma science. Oui, grâce à cette nourriture, qui est aussi nourriture spirituelle, surnaturelle, on connaît et on apprend la nécessité du sacrifice et l'on puise la force de se dépasser soi-même. Oui, car c'est la bataille la plus dure, vaincre ces mauvaises inclinations, de la paresse à la sensualité, de la fausse estime de soi au découragement, indice d'amour propre. C'est toute une étude que tu dois faire avec l'aide de la science que Dieu te donne par l'intermédiaire de son Esprit Saint qui demeure en toi. Propose-toi donc chaque jour de demander au Seigneur par des prières et des supplications qu'il instruise ton esprit, qu'il te donne cette nourriture pour fortifier tes forces afin que tu puisses gravir les sommets de la sainteté. La médiocrité dégoûte le cœur de Dieu. Tu l'as lu dans les passages de la Sainte Écriture. Parce que tu n'es ni froid ni chaud, je commencerai par te rejeter loin de moi. Secoue donc ta torpeur, cette tranquillité dans tes défauts qui te fait reculer au lieu de monter. Regarde l'exemple des saints qui, se vainquant en toutes choses, ont atteint ce degré de grâce que je désirais leur voir atteindre. Ils ont pratiqué héroïquement les vertus de foi, d'espérance et de charité. Et en pénétrant dans mon cœur, ils ont découvert la grandeur, la profondeur et la hauteur de son amour. Ils en ont imité l'humilité et ils ont pu dire que dans ce cœur est la source de la science et de la sainteté. Imite-le et puise à cette source inépuisable de sainteté et de grâce tout ce qui te sert dans la vie. Moi qui ai vécu ma vie mortelle comme tout homme, j'en comprends les nécessités. Je ne désire rien, sinon que vous me les exposiez afin que je puisse vous venir en aide. Il est vrai que je pourvois à tout avant même que tu ne me le demandes, mais j'aime cela et cela entre aussi dans le plan de ma miséricorde, qui permet à l'homme, même dans son insuffisance, de s'adresser à un Dieu pour lui demander secours. C'est pourquoi humilie-toi sans cesse devant lui et prie-le d'éclairer ton esprit et il sera très heureux de t'aider. Sois assoiffé des sciences divines et comme le cerf altéré court à la source pour y étancher sa soif, toi viens à moi et bois car celui qui boit de l'eau que je donnerai n'aura plus soif pour l'éternité. La mortification. Me voici, dit Jésus, pour t'instruire de ce que personne ou peu de personnes songent à pratiquer dans la vie. Or, c'est une chose d'une telle importance que le fait de l'omettre signifie ne pas pratiquer la vie chrétienne. je te parlerai de la mortification et de la pénitence. L'homme possède trois facultés qui sont trois qualités de l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté. De même que la mémoire et l'intelligence ne doivent pas être laissées oisives, car elles se perdent, ou du moins se rouillent, de même la volonté doit être éduquée, renforcée et châtiée, et toujours tenue en exercice pour qu'elle se fortifie en chaque individu si l'on ne veut pas courir le risque d'être des aboliques. L'empire de la volonté exige la loi de la mortification. C'est une loi qui devrait soumettre l'homme dès sa naissance. En effet, la maman commence à imposer la nourriture à son petit enfant à des heures déterminées. Et tout ce qui le concerne, elle le lui impose avec une certaine régularité. Cette régularité, tu peux l'appeler de l'ordre. Mais en somme, c'est une mortification que tu imposes à l'enfant pour éduquer sa volonté, moyennant une loi à laquelle est liée la santé de son corps. À mesure que l'enfant grandit, ses exigences et ses défauts croissent avec lui. Les premières doivent être modérées, les secondes doivent être réprimées et ôtées. C'est pourquoi la loi de la mortification devient encore plus nécessaire. Mais pour les jeunes aussi, comme pour les adultes, cette loi est indispensable, car à elle sont liées la maîtrise de soi, la santé physique, et unie à d'autres vertus, elle est indispensable au salut. Par là, je n'entends pas te dire que tu doives te flageller ou jeûner toute ta vie, mais un jeûne moral constant, une vigilance continuelle vis-à-vis des sens, accompagnant la mortification, même matérielle, de ceci, est indispensable. Celui qui veut tout voir, tout entendre, tout se permettre, se ruinera moralement, spirituellement et même physiquement. Mortifie donc tes regards qui devront un jour se poser sur les visages de Dieu, car les yeux sont les fenêtres de l'âme. De même qu'en certaines circonstances, tu fermes les fenêtres afin d'empêcher que n'entrent des éléments nocifs pour l'air ambiant ou pour les personnes qui y vivent, de même, tu dois mortifier tes yeux en bannissant l'envie de voir ce qui peut porter préjudice à ton esprit et à ton âme. Si tu permets à tes yeux de tout voir, tu finiras par rendre malades les yeux de ton esprit qui ne supporte pas l'introduction des malpropretés, absolument comme les yeux du corps ne supportent même pas la plus fine poussière qui les incommoderait. Tes yeux seront beaucoup plus lumineux et limpides quand les yeux de ton esprit seront préservés des laideurs de la vie grâce à la mortification. Même le bien matériel, mortifie ta langue. Tu m'es dit, Jésus, et ici je pourrais te parler d'une double forme de mortification, qui va de la mortification dans la nourriture à celle du silence. Pour la première, je me borne à te faire remarquer une loi qui est aussi d'hygiène. C'est pourquoi son utilité se répercute même sur la santé. Choisis les aliments qui ne contentent pas tellement le goût, mais qui te font du bien. Pour le reste, la modération est une bonne règle. Les goinfreries, le fait de grignoter à tout moment, de contenter sa gourmandise, ruinent le corps physiquement et détournent la pensée des choses des dieux, car on fait un dieu de son propre ventre. Voilà pourquoi l'Église intervient. Elle veut le bien spirituel et même le bien matériel de ses enfants. Elle intervient par les lois de l'abstinence et du jeûne, précisément pour régulariser aussi le corps, afin d'aider ses enfants dans ce sens. Mais il est une mortification de la langue encore plus importante, et c'est celle qui met en garde contre l'excès des paroles, contre la médisance et la calomnie, les propos obscènes, le blasphème, et contre tout le mal que l'homme peut commettre par ce don si grand qu'est la langue. Je voudrais vraiment que tous les hommes se munissent d'un sceau particulier qu'ils placeraient sur leurs lèvres. Ils ne l'ôteraient que lorsqu'ils devraient ouvrir la bouche pour chanter les louanges de Dieu ou pour consoler, instruire et réjouir leurs prochains. Quelle peine attendent au purgatoire les âmes qui, par la langue, ont porté préjudice à leurs prochains de quelque façon que ce soit. Veille donc sur ta bouche, car s'il est vrai le proverbe que vous avez l'habitude d'énoncer, à savoir la gourmandise en tue plus que l'épée, il n'est pas moins vrai que l'on tue beaucoup des personnes dans leur honneur par la calomnie. On tue l'innocence par les propos obscènes. Ce sont là des carnages bien plus grands que ceux occasionnés par une guerre. Parle avec modération, parce que celui qui parle trop se trompe souvent. Mortifie ta langue en ce double sens. Ne mange pas tout ce que tu veux, ne dis pas à tout propos et hors de propos tout ce que tu sais. Esprit de sacrifice, sois prudent pour n'offenser personne par ta loquacité. Mesure tes paroles, qu'elles soient douces et bonnes et persuasives s'il le faut, fortes parfois si tu détiens l'autorité, mais que tout soit protégé par une sainte mortification qui modère le ton des paroles et les rend efficaces. Mortifie tes sens, ton corps, ne leur accorde pas plus que le nécessaire. Le corps doit être soumis à l'esprit si tu ne veux pas qu'il récalcitre comme le petit âne à qui l'on donne trop d'avoine. Impose-toi de te laver à une heure déterminée et de te coucher aussi à une heure raisonnable, en sachant renoncer à quelque délaissement qui n'est pas indispensable. La mortification est comme la clôture qui défend la pureté des jeunes, qui donne force et maîtrise de soi, qui éduque les caractères et fait naître cet esprit de sacrifice qui doit accompagner l'homme dans toute sa vie, quelle que soit la profession choisie ou la vocation suivie. Sans mortification, on sera incapable de commander à soi-même et aux autres. Une maman ne sera pas en mesure d'accomplir son devoir, auquel elle renoncera avec une grande facilité. Elle ne pourra pas enseigner à ses enfants à accomplir le leur, si elle ne fait pas de la mortification sa gymnastique de chaque jour. Et ce qui est vrai pour une maman l'est pour tout le monde. La loi du devoir est une loi universelle, comme celle de la douleur. Pour l'accomplir, il faut une bonne dose de sacrifice, pour ne pas dire un sacrifice continuel. On y arrive au moyen de la mortification qui, réglant toutes choses à la lumière de Dieu, donne à la vie un ordre et un sens. Tout de la main de Dieu, Jésus, tu me dis, écoute la leçon que je vais te donner et ne crains rien. Ne te décourage pas, mais en tout, sache voir la main de Dieu qui permet tout pour ton plus grand bien et pour ton profit spirituel. Tout est conduit par la main sage de Dieu, qui sait tirer le bien du mal lui-même. Personne ne peut te nuire si je ne le veux pas ou si je ne le permets pas. Même si l'action de ceux qui se déchaînent contre toi est malfaisante et criminelle en soi, et pour ceux qui l'accomplissent, pour toi, elle peut et elle doit être tout bonnement salutaire. Tout dépend de la manière dont tu l'accueilles et l'utilises. L'action du médecin qui emploie les bistouris en elle-même est un mal, mais elle est profitable au malade, même s'il en souffre, et accomplie par un médecin compétent, elle lui donne la santé. Le bien tiré du mal lui-même. Le médecin compétent, c'est Dieu qui conduit la main de l'homme. Sache donc, en tout, remonter de bas en haut et ne te déchaîne jamais contre qui que ce soit, mais en tout, soumets-toi au divin vouloir. Personne ne peut te nuire au-delà de ce que je permets ou désire. C'est pourquoi tu dois en tout adorer la divine volonté. Ainsi tu sauras retirer le bien du mal lui-même. Éteins donc en toi tout sentiment de rancœur contre qui que ce soit. Pardonne à ceux qui te blessent et aime-les. Bien plus, prie pour eux et efforce-toi d'ôter tout motif de désaccord pour que renaisse immédiatement entre vous la paix, la concorde et l'amour. Tu ne dois craindre qu'une seule chose, la perte de la grâce. Tout le reste n'est rien. Ne t'ai-je pas dit dans l'Évangile, ne crains pas celui qui peut tuer le corps, mais l'âme. Vis dans la paix et la sérénité en louant le Seigneur. Quand il pleut ou quand resplendit le soleil, quand il fait chaud ou froid, quand il fait beau temps ou mauvais temps, et cela aussi au sens spirituel, car pluie ou le soleil, froid ou chaleur, tout sert à faire mûrir les fruits, comme spirituellement ils font mûrir les fruits de la vie éternelle. La sangsue qui, placée derrière l'oreille, tire avec avidité le sang mauvais, ne se rend pas compte de son utilité, mais dans la main du médecin, elle est précieuse. Aussi, efforce-toi sans cesse de voir tout ce qui t'arrive sous cet angle de vue. Et avec le temps, quand les choses sont considérées avec une objectivité plus grande, toi aussi, tu découvriras l'utilité et le bienfait de telle souffrance, de telle mortification ou de telle offense qui te semblait si injuste, si mauvaise au moment où tu l'as reçue. Pain salutaire. Dans la vie, les incompréhensions, les railleries, les trahisons sont le pain quotidien, un pain dur en vérité. Mais c'est toujours un pain salutaire que le Seigneur te donne. Reçois-les de sa main avec reconnaissance et amour. Et de ce pain salutaire, tu respireras le parfum et la fragrance, au point de le goûter. Et si tu te montres plus haut, tu iras jusqu'à le demander toi-même à Dieu. Per aspera ad astra. Oui, à travers beaucoup de difficultés, on arrive en haut. Et si tu cherches avec patience et sérénité à les surmonter, tu monteras jusqu'aux étoiles tout en portant la croix, et ta satisfaction et ta joie seront grandes. Garde la paix au-dedans de toi, ce qui revient à te dire de garder le Seigneur. Vis avec lui, lui seul t'est indispensable. Tout le reste passe, s'écroule et se détruit. Vis en aimant le Seigneur, ton Dieu, et avec lui embrasse le monde. Rappelle-toi toujours que Dieu t'aime infiniment. Cependant, tu ne seras pas récompensé en proportion du degré d'amour qu'il te porte, mais en proportion de ta correspondance à cet amour, dans l'adhésion parfaite à sa volonté. De même que Jésus, oubliant qu'il était fils de Dieu, s'est soumis à toutes les humiliations pour faire la volonté du Père, et par lui fut glorifié dans les cieux. De même toi, en acceptant ces humiliations qui te viennent des hommes, mais sont dans les plans d'amour de Dieu, tu mériteras d'être couronné dans la gloire éternelle. Les jugements de Dieu, Jésus me parle, écoute-moi, renonce un moment à ta façon de penser et place-toi avec crainte devant moi, qui un jour devrait être pour toi un juge sévère. Toute ta vie sera pesée sur une balance de très grande précision, une balance spirituelle bien entendu, qui contrôlera absolument tout, tes paroles, tes pensées et tes actions. Rien n'échappera à mon jugement sévère. Toute ta vie, tu la reverras comme dans un miroir, et tu verras aussi ce que tu pouvais faire et que tu n'as pas fait. Mais quand tu seras devant les juges suprêmes, les repentir ne sera plus possible. Tu resteras ce que tu seras, sans possibilité de changement. Je t'ai dit que tu seras jugé sur tes pensées, tes paroles et tes actions, mais sur la base d'un code, celui de l'amour. Un témoignage d'amour. Tes paroles ont-elles été pleines d'amour? Ce qui revient à dire, as-tu porté partout la paix, la bonté, mes enseignements? Ta parole, l'as-tu toujours utilisée pour faire le bien? N'as-tu pas sémé la discorde, blessé le prochain dans sa réputation? As-tu répondu à ce don d'amour qu'est la parole en sémant l'amour? Tu peux rapporter pareille interrogation à tes pensées et à tes actions. Oui, il te sera demandé si ta vie a été un témoignage d'amour, un don d'amour. La loi est là tout entière, et le jugement sera ainsi. Je vous l'ai dit de mille manières durant ma vie mortelle, dit Jésus. J'étais venu pour parfaire la loi et pour mettre une empreinte d'amour là où il n'y avait que la justice. Il n'existait pas de loi du pardon, mais celle de la vengeance. Non point l'amour envers les ennemis, mais seulement celui envers les amis. Et je le répétais de mille manières, sous différentes formes. Celui qui dira à son frère Raca, qui veut dire fou, sera châtié. Aimez même vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent, que jamais le soleil ne se couche sur votre colère, ne rendez pas le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Et toutes tes actions, accomplis-le à la lumière du soleil de l'amour divin, veux-je dire, pour que les hommes, en les voyant, louent le Père qui est dans les cieux. Ainsi parlai-je. Te semble-t-il difficile de te conduire ainsi? Eh bien, pense qu'avec la même mesure, le même maître avec lequel tu mesures, tu seras mesuré. Pense que Dieu se comportera avec toi comme maintenant tu te comportes, non pas tellement avec lui, dans le sens où tu le pries et lui dis de l'aimer, mais avec ton semblable, ton prochain, ton frère qui vit auprès de toi, et avec tous les frères du monde. La famille de Dieu, oui, car personne ne doit circoncire sa vie à soi-même, ni à sa propre famille. La famille humaine, c'est la famille de Dieu, c'est ta famille, et dans le monde, il n'est pas besoin auquel tu puisses rester étranger ou sourd. Là où ne peut arriver ta parole, faite d'amour, ta pensée arrivera sans plus. Et avec la pensée, ton affection, et avec elle, ta prière. Affection et prière apporteront leurs bienfaits, et apporteront leur aide à qui que ce soit, proche ou lointain. Cependant, n'oublie pas que le prochain qui t'entoure, les prochains du monde entier, attendent aussi tes sacrifices, ton don d'amour. Et c'est logique. Si une maman disait à son fils qu'elle l'aime et qu'ensuite elle le laissa manquer du nécessaire, où serait son amour? Et ce qui est un devoir pour la maman l'est aussi pour le fils envers sa mère. La vie est ou devrait être tout entière un don réciproque d'amour, fait aussi des paroles, des pensées, d'affection et surtout des sacrifices, des renoncements consentis par les uns en faveur des autres. Comme le monde serait différent s'il y avait moins d'égocentrisme et plus d'altruisme, moins d'égoïsme et plus d'amour. Quelle harmonie régnerait dans les familles où l'on vivrait un pour tous et tous pour un. Celui qui souffre trouverait du réconfort, les pauvres trouveraient de l'aide, le malade serait soigné avec plus d'amour, et aucun besoin matériel et spirituel ne resterait sans écho dans les cœurs de tous. Tout le monde a besoin, oui, car tout le monde a quelque chose à donner, et tout le monde peut recevoir ce dont il a besoin. Tu vas au chevet d'une personne infirme, elle se plaint de ne pouvoir rien faire pour personne, mais sa vie passée dans la souffrance est un don immense qu'elle fait à l'humanité. Tout le monde a besoin d'elle. Ont besoin d'elle tous ceux qui ont la santé du corps et sont peut-être malades en leur esprit. Tous ceux qui remplissent des tâches délicates en faveur des hommes, du médecin au prêtre, du journaliste au député, de l'avocat au juge, de l'enseignant au dirigeant, tous ont besoin d'être aidés pour que leur profession soit fondée sur l'amour et la justice. Tu comprends que le don que peut faire un infirme ou une âme souffrante à toutes ces personnes est tellement grand que ce que les autres font pour elles est bien peu de choses. Comme vous verrez différemment les choses en paradis, mes chers enfants, que de situations renversées, que de personnes vous verrez qui ont passé leur vie dans l'obscurité, dans l'humilité, le silence et la bonté, ne demandant rien et donnant tout, non pas matériellement car elles ne possèdent rien, mais donnant la richesse de leur cœur. Vous les verrez dans les hautes sphères des saints, plus que ceux qui auront vécu avec éclat et peu aimé. Dans les silences et la bonté, je te le dis encore, et ne te fâche pas si j'insiste. Fais de ta vie un don d'amour à l'humanité, oui, car ce n'est qu'en aimant les hommes que l'on arrive à Dieu. C'est comme une partie d'un même visage, une chose complète l'autre, et même je puis te dire que l'amour de Dieu ne peut exister sans l'amour du prochain. Aimez tout le monde, pardonnez-vous réciproquement, aidez-vous mutuellement, soyez plus prompt à voir le bien que le mal, car te rappelles-tu ce que je t'ai dit dans l'Évangile? Ne veuille pas ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors qu'il y a une poutre dans le tien. Fais en sorte de posséder la lumière de Dieu dans tes yeux, et puis aide le prochain à voir, car un aveugle ne peut conduire un autre aveugle. Je veux te dire encore une chose. Tu me répètes chaque jour, et même plusieurs fois par jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Avec ce mot, tu me donnes un code, et tu me fixes la mesure. Pense-les bien, ces paroles. Pense que chaque fois que tu les prononces, tu vas répétant ton jugement, bon ou mauvais, ton absolution ou ta condamnation, car ton Dieu agira vraiment ainsi. il fera ce que tu lui dis de faire. Si tu pardonnes, ce qui revient à dire, si tu aimes le prochain, si tu as compassion de lui, si tu l'aides au point de te sentir tranquille parce que tu ne lui as occasionné aucun dommage et que tu as cherché de l'aider en tout, ne crains rien. Le jugement de Dieu sera plein de bonté et de miséricorde. Il t'accueillera entre ses bras, car avec la même abondante mesure de bonté et d'amour dont tu as mesuré, tu seras toi-même mesuré.